France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui inspirée d'une part de la fête de Saint-Basile, célébrée le 1er janvier, et d'autre part de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, célébrée tous les ans du 18 au 25 janvier, et organisée cette année autour du thème de l'espérance. Le sujet de cette émission est le monastère grec Sainte-Marie de Grottaferrata, en Italie, une institution religieuse aux portes de Rome qui est en fait, depuis sa création, un pont entre l'Orient et l'Occident chrétien. Pour en parler, nous recevons Annick Peters Custo, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Nantes et présidente du Comité français des études byzantines. Chère Annick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une grande spécialiste de la présence byzantine en Italie. Alors, le monastère de la Grottaferrata, bien connu entre autres pour sa très riche bibliothèque, est une institution millénaire.
Et même plus que millénaire, puisque le monastère a été fondé en 1004. Mais c'est vrai que cette année précisément, il célèbre le millénaire de la dédicace de l'abbatiale, qui a été faite par le pape en décembre 1024 et qui donne lieu, durant toute l'année précédente et cette année encore, à divers événements, célébrations, mais aussi congrès scientifiques et publications.
D'emblée, il faut dire que c'est un monastère catholique, mais de rite grec. Mais à l'époque de la fondation, évidemment, il n'y a pas cette séparation, en tout cas pour le symbole du schisme de 1054.
Hein, absolument. Non. Donc le monastère est fondé dans une chrétienté qui est encore complètement unie et où il n'y a pas de catholique de rite orthodoxe ou rite grec, bien entendu. Donc il est fondé en 1004, vraiment à l'extrémité de sa vie, par un saint moine d'origine calabraise, grec, de langue grecque et de culture complètement byzantine, qui s'appelle Nil le Jeune ou Nil de Rossano. Ce saint moine Nil a un profil tout à fait particulier dans le paysage de la sainteté monastique italo-grecque, c'est-à-dire de cette époque où l'Italie du Sud était, enfin une partie de l'Italie du Sud était hellénophone et dans l'Empire byzantin, parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie en dehors de l'Empire byzantin, au contact des populations, donc on va dire latines. Et effectivement, s'il a fondé un certain nombre de monastères dans sa Calabre natale, il en est ensuite sorti pour se promener dans la principauté de Capoue, pour résider quelques années dans une dépendance de la grande abbaye du Mont Cassin, fondée par Saint Benoît au VIe siècle, et qui lui a offert de pouvoir, avec sa petite communauté, s'arrêter un petit peu dans un petit établissement qui s'appelle Valleluccio. De là, il est parti à Serperi, puis il est allé à Rome. Il a été un temps conseiller de l'empereur germanique Othon III. Et enfin, il s'est installé pour finir sa vie à une quinzaine de kilomètres de Rome, dans ce lieu de Grottaferrata, où il y avait d'ailleurs déjà une église grecque dédiée à Sainte Agathe, et où il est mort sur le point de fonder ce qui sera ensuite l'abbaye de Grottaferrata.
Pourquoi le fait-il? Est-ce qu'il veut vraiment créer une fondation hellène, grecque, byzantine, je ne sais pas comment il faut dire, ou c'est simplement parce que c'est un moine qui fonde tout naturellement des lieux de spiritualité?
Nil de Rossano fonde des établissements et des communautés monastiques qui sont toujours des établissements et des communautés monastiques byzantines. Ces communautés sont systématiquement à l'image de lui, c'est-à-dire que il leur donne là aussi un profil d'activité spécifique. Nil de Rossano est un grand amateur de livres. Dans sa vie, on dit qu'il a acheté des manuscrits à Rome, et ça, c'est vrai, puisque l'abbaye de Grottaferrata a conservé pendant longtemps le plus ancien manuscrit de la traduction grecque des dialogues de Grégoire le Grand, donc ce grand pape de la fin du VIe siècle qui a écrit des vies de saints, dont la vie de Saint Benoît, sous forme dialoguée, qu'on appelle les dialogues. Et au milieu du VIIIe siècle, à l'impulsion du pape Zacharie, qui était un pape grec, eh bien, on traduit en grec ces dialogues, et le plus ancien manuscrit, eh bien, il est acheté par Nil de Rossano à Rome. Nil acquiert des manuscrits, il constitue donc le noyau de la bibliothèque de Grottaferrata, qui est une des grandes bibliothèques monastiques de l'Italie médiévale, et il en copie lui-même. On a des manuscrits de sa main, des manuscrits autographes, il copie énormément de textes des textes religieux, de la patristique orientale en particulier. Et donc, les monastères qu'ils fondent, et en particulier le monastère de Grotta Ferrata, puisent dans ce charisme propre de Nil de Rossano une identité qui est celle d'un grand centre intellectuel avec une activité de copie de manuscrits grecs tout à fait importante, et ce jusqu'à la fin de sa vie médiévale, en quelque sorte.
Bon, on va passer un tout petit peu au rôle un peu plus général de cette institution qui s'installe et qui a connu une histoire tout à fait illustre après, et qui est toujours là. Et à qui s'adresse-t-elle, en fait?
C'est là où on a intervient l'idée de pont entre Orient et Occident. La Sainte Marie de Grotta Ferrata prend le relais d'une présence monastique grecque qui est attestée à Rome, grecque et orientale de manière générale, qui est attestée à Rome à partir du VIe siècle. Donc dès le VIe siècle, on sait qu'il y a installation, implantation pérenne de monastères grecs dans la ville de Rome et qui vont connaître une vie florissante jusqu'à la fin du IXe siècle. Et sur cette présence grecque monastique à Rome, je renvoie à une étude très classique de Jean-Marie Santerre, les moines grecs et orientaux à Rome au Moyen-Âge, qui fait le point là-dessus. À la fin du IXe siècle, cette présence s'étiole parce qu'elle n'est plus alimentée par des flux de migratoires qui ont été précédemment liés soit aux conquêtes islamiques des zones orientales de l'Empire romain d'Orient, Empire byzantin, soit à l'iconoclasme, etc. Donc on n'a plus ces flux importants qui venaient alimenter la présence monastique grecque à Rome. Et puis, à la fin du Xe siècle, on a un sursaut avec notamment la fondation d'un monastère double, grec et latin, Sant'Alessio sull'Aventino, par un Syrien, archevêque de Damas, en 977. Et ce monastère va jouer un rôle éminent de pont entre Orient et Occident, en particulier en raison d'un igoumène qui est très très actif, très proche du pape, et qui fait le lien, en gros, entre les chrétientés orientales, l'Italie du Sud, la papauté et le reste de la chrétienté. Et au tout début du XIe siècle, ce monastère, là encore, se décline un petit peu, et c'est Grotta Ferrata qui va reprendre ce rôle-là de pont entre l'Orient et l'Occident, dans la mesure où c'est un monastère qui, évidemment, suit une liturgie byzantine, en grec, avec des moines qui suivent une discipline byzantine, orientale, mais qui, en même temps, par exemple, écrivent des hymnes grecs en l'honneur de saints occidentaux, comme saint Benoît ou saint Martin de Tours, et puis qui, surtout, dans l'entourage du pape, sont des italo-grecs, mais qui sont partisans, par exemple, de la primauté pontificale, et donc qui soutiennent un certain nombre d'idées que promeut l'évêque de Rome à ce moment-là. Mais nous sommes bien en amont de la grande division de la chrétienté. Ce pont entre Orient et Occident se fait aussi à l'intérieur d'un même ensemble qui est une chrétienté qui, malgré les différences de rites, de liturgie, de langue d'expression, eh bien, se sent une.
Et les tensions de personnes, évidemment.
Oui, évidemment.
J'ai envie de vous dire, Saint Basile dans tout ça.
Saint Basile est un des grands inspirateurs du monachisme byzantin, oriental, bien entendu, au même titre que Saint Antoine, Hilarion, Sabbas de Palestine ou Théodore Studite. Donc ça fait partie des références spirituelles, mais aussi en termes de vie monastique, qui sont très fréquemment, en fait, appropriés par les communautés monastiques byzantines. Cela étant, il n'existe pas, dans le monde byzantin, l'équivalent de ce que la règle de saint Benoît a été pour le monachisme occidental, c'est-à-dire l'idée d'une règle qui serait unique pour un ensemble de monastères différents. L'idée de la regula sancti basili, et je le dis en latin parce que en fait elle n'a pas de lieu d'être pour le monde monastique byzantin, donc je le dis en latin parce que c'est une création latine, cette idée d'une règle de saint Basile est une création occidentale qui est liée à la traduction latine autour de 400 d'un texte qui attribué à Basile et qui sous forme de questions-réponses, quand Basile de Césarée est évêque, eh bien, répondait aux différentes demandes des communautés de son diocèse. Ce texte grec, on ne l'a plus en grec, mais on le connaît par sa version latine et aussi par une version syriaque. Et c'est ça la règle de saint Basile qui va être connue, que cite saint Benoît dans sa propre règle, qui a donc un certain succès, qui circule, mais qui n'a pas du tout le même sens, enfin qui est pratiquement inconnue ou plutôt qui ne joue pas le rôle que la règle de Saint-Benoît a joué pour le monachisme occidental. Cette règle de Saint-Basile ne joue pas du tout ce rôle-là dans le monde byzantin.
En effet, quand on vient de l'Orient chrétien, on est étonné de savoir qu'il y a un ordre de Saint-Basile. Là, c'est pas, ouais. Et c'est la différence. Alors, on fait une pause en musique pour aller dans l'église, bien sûr. Et c'est le Condacion de Saint-Bartholomé par l'ensemble Capella Romana, dirigé par Alexandre Dingas. Le chanteur qu'on entend, le chantre, donc, c'est Ioannis Sarvanitis. Et c'est un extrait du CD qui s'appelle Byzantium in Rome, donc Byzance à Rome. Et après cet extrait du Condacion de Saint-Bartholomé par l'ensemble Capella Romana, dirigé par Alexandre Lingas, nous revenons à notre entretien avec Annick Peters Custo sur le monastère grec Sainte-Marie de Grotta Ferrata en Italie. Alors, chère Annick, on continue dans l'histoire de Grotta Ferrata, qui évidemment est une histoire très riche, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe après, en fait ? Nils de Rossano a fondé, cela fonctionne très bien, le pont est établi, mais après ?
Nils de Rossano, on vient d'entendre un contacion pour Saint-Barthélemy de Grotta Ferrata, qui est le quatrième igoumène de Grotta Ferrata. Après lui, il y aura également un grand igoumène entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, qui s'appelle Nicolas. Et c'est une période de grand épanouissement pour le monastère, mais qui va connaître, à partir du XIIIe siècle, comme beaucoup de monastères italo-grecs, en fait, une phase de déclin. Déclin tout relatif, hein, mais qui continuera son activité de copie et de conservation de livres et de manuscrits. Mais c'est vrai qu'à la fin du Moyen-Âge, il entre un peu dans la tourmente, qui est une situation générale pour tout le monachisme italo-grec. Et puis arrive un nouveau protagoniste dans cette affaire, qui est le cardinal Bessarion, que nous connaissons bien, nous, les byzantinistes, puisque il a participé au Concile d'Union de Florence de 1439, mais du côté grec, du côté byzantin. Cela étant, il a été recruté par la papauté et il est devenu cardinal au titre des saints apôtres. Et le pape lui a pratiquement immédiatement confié la réforme du monachisme italo-grec.
Il faut dire qu'il était allé en tant que métropolite de Nicée.
Tout à fait.
Entre-temps, il a changé, il a été convaincu par les arguments des latins. Et en fait, ouais.
Exactement, il a été retourné en quelque sorte. Alors, il a une vie passionnante. C'est un des grands, grands intellectuels et un des grands responsables de du grand épanouissement de l'humanisme intellectuel dans l'Italie du XVe siècle. Donc, il doit réformer tout le monachisme italo-grec et il va faire comme la méthode pontificale bien consolidée depuis des siècles, c'est-à-dire qu'il faut faire une règle, il faut visiter les monastères pour voir l'état dans lequel ils sont, et puis voilà, il faut créer un ordre, réunir un chapitre, et c'est tout ce qu'il fait en réalité. La règle qu'il compose est une sorte de résumé de la règle de Saint-Basile. Enfin, c'est assez intéressant parce que, en gros, l'architecture est pratiquement comme la règle de Saint-Benoît, avec 23 chapitres seulement et non pas 73. Et donc, il compose un squelette qui est pratique, qui copie un peu, qui imite un peu la règle de Saint-Benoît. Mais à l'intérieur, toute la chair, ça vient des œuvres ascétiques de Basile de Césarée. Donc, ça donne un résultat extrêmement intéressant. Il le fait évidemment en grec. Et puis, assez rapidement, il s'aperçoit que, notamment suite à la visite, dont on a d'ailleurs le compte-rendu en latin, de ces monastères, il s'aperçoit que malheureusement, la connaissance du grec n'est plus là parce que les moines sont des Italiens, en fait. Et donc, il l'a fait traduire immédiatement en latin, puis en italien. Et c'est donc une règle trilingue qui va servir et qui va servir à la réforme du monachisme italo-grec et surtout à l'unification, à la création de l'ordre de Saint-Basile qui émerge véritablement en ce milieu du XVe siècle. Et puis, un siècle plus tard, la papauté décide de créer la congrégation basilienne en 1573. L'abbaye de Grottaferrata entre pratiquement immédiatement et toute la congrégation, sur décision du pape, va aligner sa liturgie sur le rite de Grottaferrata. Et l'abbaye de Grottaferrata va devenir un des trois noviciats de l'ordre de Saint-Basile, avec celui du Saint-Sauveur de Messine et celui du Pâtir de Rossano. Voilà pour la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, qui est celui de la création de l'ordre, puis de la congrégation de Saint-Basile.
On vient plus près de nous alors, et on va au 19e siècle, c'est ça?
Tout à fait. Alors, il faut savoir, peut-être nos auditeurs ne sont pas tous au courant, qu'en 1855, il y a une grande loi en Italie qui supprime toutes les congrégations qui n'ont pas d'utilité sociale. Donc ça, ça dévaste beaucoup de choses. Moyennant quoi, le pape, en fait, les papes sont très attentifs à la présence d'un monastère de rite byzantin, de catholique, mais de rite byzantin, aux portes de Rome. C'est pour eux un élément essentiel, en fait. Et donc, à partir de 1881, le pape Léon XIII relance l'abbaye qui va avoir un recrutement plus dense, enfin voilà, avec des igoumènes extrêmement dynamiques, et qui va faire quantité d'activités, l'écriture d'icônes, une imprimerie, et puis l'engagement dans les premiers pas de l'œcuménisme, puisque l'abbaye va éditer une revue de courte durée à partir de 1900, mais c'est quand même très symptomatique, et qui s'appelle Roma e l'Oriente, Rivista Cryptoferratense per l'Unione delle Chiese, donc Rome et l'Orient, revue de Grottaferrata pour l'Union des Églises. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, l'activité de l'abbaye, alors qui existe toujours, qui est la seule abbaye de rite byzantin sur le territoire italien désormais, et dont les moines sont d'origine diverse. Il y a des Italiens. À un moment, il y a eu aussi des moines qui provenaient de la communauté des Italo-Albanais. Il y a des Grecs. Une bibliothèque, c'est un centre intellectuel et culturel très important, avec une bibliothèque de près de 1100 manuscrits. C'est un centre de colloques scientifiques sur l'Italie byzantine et qui possède sa propre revue historique, il Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, hein, le bulletin de l'abbaye grecque de Grottaferrata. Et donc, elle a retrouvé, en fait, tout le sens de ce que Nil de Rossano avait voulu pour elle il y a 1000 ans.
Et qu'est-ce qu'on voit maintenant si on va sur place? C'est très beau, hein.
Alors, on voit une abbaye de construction récente, bien entendu, qui est enceinte par un grand mur qui se présente à première vue comme une forteresse, parce qu'elle a été enceinte par un cardinal qui ensuite est devenu pape sous le nom de Jules II au XVIe siècle. Donc, elle a c'est une forteresse en gros, et à l'intérieur, elle a une église et des bâtiments abbatiaux plutôt récents, mais d'organisation tout à fait conforme à l'architecture monastique byzantine.
Pour terminer, je voudrais deux mots sur le livre que vous avez co-dirigé avec Olivier Delouis. Voilà, Basile de Césarée, donc une postérité monastique pour l'Europe. C'est un livre paru en 2025 aux éditions Cerf Beauchesn. Et je voudrais quand même, il y a plusieurs contributions, c'est très intéressant. C'est très épais, mais on n'est pas obligé de lire du début à la fin, évidemment. Alors, qu'en est-il en fait?
Alors, Olivier Delouis et moi-même, nous nous étions interrogés sur la postérité monastique de Basile de Césarée. Les études de Basile de Césarée, jusqu'à présent, étaient vraiment concentrées sur son rôle patristique évident, théologique et patristique considérable, et la réception, notamment durant l'humanisme, de ses écrits intellectuels et théologiques. Ce Basilius Monasticus, ce Basile père des moines, en fait, n'avait jamais fait l'objet d'une publication synthétique. Et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Alors, il y a des chapitres, ça part évidemment du Basile de Césarée historique et de ses écrits ascétiques, de sa transformation en père des moines dans l'Empire byzantin à l'initiative de Théodore Studit, au IXe siècle. Et puis, on voit évidemment aussi toutes les pérégrinations, toute la réception de la fameuse règle de Saint Saint-Basile, donc la traduction en latin, sa circulation, comment se porte le monachisme grec, la réforme de Bessarion, et d'autres aspects moins connus, le Basile père des moines vu du côté de la réforme protestante, Basile de César et père des moines vu chez les bénédictins de Saint-Maur au XVIIe siècle, et puis tout l'usage que la papauté a fait de Basile pour rapatrier en son sein les églises orientales devenues unies à la papauté romaine, les Ruthènes, dans le Proche-Orient, au Liban en particulier, dans le Proche-Orient arabe, les basiliens espagnols, enfin il y a tant quantité d'excroissance de cet ordre basilien qui donne une image tout à fait colorée en fait de la manière dont la papauté a réussi à intégrer ces communautés monastiques et ces églises orientales ou occidentales avec les basiliens espagnols en son sein grâce à la congrégation basilienne.
Et voilà qu'on parle maintenant de la congrégation basilienne et tout ça. Enfin, il faut penser peut-être que ce concept qui est tout à fait latin, comme vous avez dit, est passé quand même un peu dans l'histoire. Alors, est-ce que vous pensez que l'institution de Grotta Ferrata, pour terminer actuellement, puisque nous sommes dans la semaine qui va commencer dans quelques jours de l'unité des chrétiens, contribue à cette idée, à cet idéal chrétien qui était une évidence, mais évidemment, c'est d'aller vers l'unité.
Très certainement. Et c'est pour ça que les papes eux-mêmes n'ont pas rechigné à valoriser ce cheminement d'œcuménisme dès la fin du 19e et le tout début du 20e siècle. Sans aucun doute, la relance de la dynamique œcuménique qu'on observe actuellement qu'on a observé très récemment avec le voyage du pape Léon XIV et sa rencontre avec le patriarche de Constantinople à Nicée commémorer le premier concile de Nicée, celui 325, dont nous célébrons les 1700 ans cette année, eh bien, atteste de la vigueur de cette dynamique œcuménique dans laquelle le monastère de Grotta Ferrata joue pleinement sa part.
Écoutez, il faut espérer, d'abord parce que la semaine de prière est là, et parce que, évidemment, il y a eu aussi récemment d'autres pas, évidemment, très importants. Nous avons tous vu récemment les images du pape Léon et du patriarche Bartholomé entourés de tous les responsables des églises chrétiennes sur le site de Nicée, Isnik actuellement, où s'est tenu en 325 le premier concile œcuménique. Je vous remercie beaucoup, donc Annick Peters-Custo. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Olivier Delouis, Basile de Césarée, une postérité monastique pour l'Europe, c'est le CERF Beauchesne 2025. C'était le monastère grec Sainte-Marie de Grotta Ferrata en Italie avec Annick Peters-Custo. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Julien Douminc. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Bon dimanche à tous.